Merci Marcel pour cette belle prière. Avec une aussi jolie prière, il ne peut rien m'arriver. Voilà. Bien, écoutez, Jean-Marc l'a dit, nous abordons ce matin notre 13e prédication sur la première épître de Paul adressée à Timothée. Et vous le savez, si vous avez suivi les précédentes, eh bien, Paul avait missionné Timothée pour accompagner les responsables de l'Église vers un retour à l'Évangile, vers un retour au commandement de l'Évangile. Et au fond, tout au long de la série de ces 12 prédications, les prédications précédentes, eh bien, il a été sujet de recommandations pour que l'Église d'Éphèse revienne à la vérité de l'Évangile, parce que justement, elle s'était éloignée de cette vérité. Et si vous cherchiez un titre pour justement avoir l'ensemble de ces prédications, eh bien, le retour à la vérité de l'Évangile pourrait être un titre global. Et là, on arrive vraiment à la fin, et c'est moi qui ai l'honneur de terminer. Voilà, alors j'ai une pression de mes collègues, le prédicateur m'a dit, voilà, ça doit être le bouquet final. Donc voilà, mais heureusement que la prière de Marcel m'a permis justement d'être détendu, voilà, avant. Donc effectivement, ce sont les 5 derniers versets. Et c'est pas n'importe quoi, parce que Paul a dû se dire, par quoi je termine ? C'est quoi la dernière impression que j'ai envie de laisser à Timothée ? C'est quoi le dernier encouragement que j'ai envie de laisser à Timothée ? Voilà, et donc ces paroles sont particulièrement importantes, je trouve, pour ça aussi, parce que justement, c'est les derniers mots que Paul a voulu laisser à Timothée. Donc je vous invite à lire effectivement ces 5 derniers versets comme ils s'affichent, et je l'ai intitulé « La priorité des priorités ». Donc 1 Timothée 6 à partir du verset 17, et puis voilà, on terminera. « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr, afin d'obtenir la vraie vie. Ô Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ce que l'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous. » Voilà, je me suis rendu compte un peu tard que j'avais oublié de mettre le texte de la traduction selon la Bible Sommeur. Et avant les salutations finales au Timothée, eh bien, Paul aborde un thème étonnant. Étonnant parce qu'il s'adresse à ceux qui ont des richesses en ce monde. Il s'adresse aux riches. Et je trouve que c'est un thème étonnant parce que ce n'est pas un thème qui s'adresse à tout le monde. Et c'est bizarre quelque part de terminer cette épître sur un thème qui, a priori, ne concerne pas tout le monde. Moi, si Paul m'avait demandé un conseil, j'aurais dit, écoute, le verset 16, il est super, arrête-toi là. Regardez, il parle de Christ et il lui dit, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Ça aurait été une belle conclusion. En plus, il y avait Amen, c'était parfait. Eh bien non. Voilà. Paul, il a rajouté un petit truc. Et justement, s'il a rajouté quelque chose, si je puis dire, eh bien, c'est que ça doit être important. Alors c'est étonnant parce que effectivement, apparemment, ces versets ne s'adressent pas à tout le monde, ils s'adressent qu'à des personnes qui sont riches, qui possèdent des biens en ce monde. Alors je me dis qu'au fond, je pourrais vous demander, qui se sent concerné ? Que les riches lèvent le doigt, ça mettrait à l'aise tout le monde. Et puis comme ça, je parlerai qu'à vous. Et puis les autres, eh bien, vous pourriez lire vos messages, aller boire un café, enfin bref... Voilà. Le problème avec la richesse, c'est que c'est une notion qui est tout à fait relative, vous voyez. C'est-à-dire que si je vous posais la question, au fond, on est riche, c'est quoi la fourchette de revenus, ou à partir de combien, effectivement, on est riche ? Et je pense que, voilà, en fonction de nos réponses, la recette serait la recette. La fourchette, la recette, oui, la recette quand on est riche, mais la fourchette serait assez large, parce qu'on a tous un avis, au fond, sur ce qu'est la richesse. Vous voyez ? Et je pense que si je posais cette même question dans un pays pauvre, avec une grande pauvreté, eh bien, la fourchette serait complètement différente. Et même le plus pauvre d'entre nous, eh bien, serait regardé comme quelqu'un de riche. Enfin, je pense que parfois, on a une définition personnelle de la richesse. Alors, je sais ce que c'est un riche. Un riche, c'est quelqu'un qui gagne plus que moi. Et c'est un peu ça, en fait. Ouais. On ne se voit pas comme riche, au fond. Et la définition que je vous propose pour cette prédication de ce qu'est un riche, alors c'est pas exactement, effectivement, écrit comme ça dans les évangiles, mais il y a l'esprit est riche, quelqu'un qui possède quelque chose qui peut être partagé ou qui peut être donné. Est riche, et quelqu'un qui possède quelque chose qui peut être partagé ou donné. Et je crois que c'est une belle définition de la richesse, et dans ce contexte, du coup, j'ai envie de dire, eh bien, chacun est concerné par ces versets de richesse, parce qu'on est tous à posséder quelque chose qui peut être donné ou partagé. Alors Paul conclut sur ce thème, et il fait deux mises en garde et deux recommandations. Et je vous propose eh bien, de voir, avant la conclusion où il dit « Ô Timothée », je vous propose de voir justement ces deux recommandations, et puis d'abord ces deux mises en garde, et ensuite ces deux recommandations. Et la première, verset 17, voilà, « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance ». Et c'est une mise en garde, je crois, à prendre au sérieux, parce que l'arrogance, et certaines traductions parlent de l'orgueil à la place de l'arrogance, pousse à se replier sur soi, à se couper des personnes qui nous entourent et à vivre au fond tout seul sur son île. L'orgueil rend inaccessible. L'orgueil empêche la compassion. L'orgueil empêche l'écoute. Et c'est donc un danger important dont il faut se préserver. Et selon Paul, eh bien, c'est un piège dans lequel on peut tomber lorsque l'on a des richesses. En fait, ce n'est pas tellement mon niveau de mon compte en banque ou l'épaisseur de mon compte en banque qui me rend orgueilleux. C'est la perception que ça me donne de moi-même lorsque je possède quelque chose. Si un bien me donne l'impression d'appartenir à une caste particulière, à un groupe spécial, eh bien ça me rend arrogant. Parce qu'au fond, je divise l'humanité en deux. Ceux qui appartiennent au même groupe que moi et les autres. Et encore une fois, ce n'est pas une question de montant, ce n'est pas une question de savoir si mon compte en banque est rempli ou pas, mais une question de perception. Et même si le danger, j'en ai bien conscience, eh bien, est plus grand lorsque je possède beaucoup. Comment je me perçois, moi? Et je vous donne une illustration qui montre à quel point le cœur de l'homme peut être absurde. Alors, ça date un peu, mais en 1927, un réalisateur qui s'appelle Abel Gance a fait un film sur Napoléon. Et c'est un film qui a marqué, c'est un film référence. C'est un film qui dure 5h30, donc voilà, il a passé du temps. Et bien sûr, il a recruté des figurants pour jouer dans son film. Et il y a des figurants qui jouaient le rôle d'officier et des figurants qui jouaient le rôle de grognard. Et donc chacun avait un costume différent. Évidemment, les officiers avaient un costume d'officier et les soldats du rang, les grognards, eh bien, avaient un costume de grognard. Et très rapidement, à la pause déjeuner, ceux qui avaient un costume d'officier déjeunaient ensemble et ceux qui avaient un costume de grognard déjeunaient ensemble. Alors qu'ils avaient tous le même statut de figurant, il n'y avait pas plus d'officiers que de soldats du rang, mais voilà, l'habit, quelque part, a fait le moine. Avec cet habit d'officier, eh bien, je me sentais peut-être différent. Et parfois, on fonctionne comme ça. Il arrive que l'on se perçoive comme différent, comme supérieur, parce que l'on possède. Et cela d'autant plus qu'on a la manie des comparaisons et on aime bien se comparer. On aime bien savoir si je gagne plus que les autres au sein de l'entreprise, comment mon salaire finalement se place dans la hiérarchie des salaires. On aime bien comparer nos maisons, on aime bien comparer nos voitures, nos revenus, nos enfants. Enfin bref, on a plein de sujets comme ça de comparaison et on aime bien faire ça. Et aux yeux de Dieu, eh bien, toutes les vies ont le même prix. Que l'on soit l'un des 26 milliardaires qui possèdent la moitié de la richesse de l'humanité, on a entendu ça récemment, ou que l'on soit un enfant qui meurt en silence dans la Méditerranée, eh bien, aux yeux de Dieu, tous ont le même prix. Et les problèmes commencent lorsque nous oublions que nos richesses, nos biens matériels, eh bien, sont tous des cadeaux de Dieu. Les problèmes commencent lorsque nous pensons que posséder quelque chose nous rend différents, nous rend supérieurs. Et c'est là que nous devenons orgueilleux, parce que nous regardons les autres de haut. Et tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Nous n'en sommes que les gérants. Alors que nos richesses, quelles qu'elles soient, quel que soit le montant de nos richesses, parce qu'encore une fois, c'est souvent une histoire de perception, eh bien que nos richesses ne nous coupent pas des autres et des besoins qui nous entourent. Et ça, c'est la première mise en garde de Paul. La deuxième mise en garde de Paul et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, ou notre espoir sur la richesse, car elle est instable. Et on espère tous quelque chose de particulier. Notre espoir, on a l'espoir d'être heureux, on a l'espoir de bien gagner notre vie, on a l'espoir de la sécurité, on a l'espoir que nos enfants réussissent leur vie. Et puis il y a aussi l'espérance du salut, dont on a parlé tout à l'heure au moment de l'introduction et que l'on a chanté aussi. L'espérance du salut, c'est-à-dire que la mort physique, eh bien, n'est pas la fin de toute chose. Et nous savons bien que ce n'est pas le fait de posséder qui mène au bonheur, qui apporte le salut, qui apporte la sécurité. Et pourtant, parfois, eh bien, on se comporte comme ça. Jeff Bezos, vous devez le connaître, c'est le fondateur d'Amazon, c'est depuis très récemment l'homme le plus riche du monde. Il a détrôné Bill Gates, le pauvre. Je ne sais pas comment il le vit, mais voilà. C'est Jeff Bezos qui est l'homme le plus riche du monde. Sauf qu'il est en plein divorce en ce moment. Et comme il a créé Amazon avec sa femme, eh bien, il est obligé de séparer la fortune en deux. Bon, avec ce qui va lui rester, je pense qu'il est à l'abri du besoin. Mais je trouve que cet exemple illustre combien la fortune, et là c'est l'immense fortune, eh bien, est instable, comme nous le dit le texte. Et penser que la richesse apporte le bonheur est une illusion. Penser que la richesse apporte la sécurité est un mensonge. Elle peut disparaître. Et elle n'est d'aucun retour, aucun recours pardon, aux véritables difficultés de la vie. Alors je vais te dire une évidence, ce n'est pas ce que nous possédons qui nous permettra d'être sauvés. Pourtant, là aussi, parfois, eh bien, certains se comportent comme tels. Et je voudrais lire un passage, un enseignement du Seigneur dans Luc 12, versets 13 à 21. Et le titre, effectivement, dans ma Bible, c'est « Le riche dépourvu de bon sens ». Et je vais le lire avec vous. « Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Je ne commente pas plus ce passage parce que je trouve que l'enseignement de Christ se suffit à lui-même. Mais permettez-moi quand même de partager une anecdote personnelle. Il y a quelques années, mon père est décédé et j'ai eu la possibilité, l'occasion de l'accompagner dans ses derniers mois de vie. Et dans son périple médical, si je puis dire, il est passé par Paris, par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et à un moment, une de mes visites, il avait été mis dans une très grande chambre. Et son lit, il était tout seul dans cette chambre, et son lit était au milieu de la chambre. Et cette image de le voir comme ça, au milieu de la chambre, c'était l'image vraiment d'un grand dénuement. Et si mon père avait accumulé des richesses au long de sa vie, eh bien, là, dans l'instant, ça lui aurait vraiment servi à rien. Et tout ce à quoi il pouvait avoir recours, c'est sa richesse intérieure. Et là, vraiment, ça a été pour moi une image qui m'a marqué parce que c'était l'image d'un grand dénuement. Et amasser ses richesses face à la mort, ça n'apporte pas grand-chose. Alors, bien sûr, il serait complètement insensé de ne pas épargner, hein, de ne pas épargner pour les projets futurs, de épargner pour changer de voiture. Eh bien, c'est bien sûr que c'est sage. Mais je crois vraiment que c'est important que nous prions pour que le Seigneur nous donne la sagesse, pour que notre épargne ne deviennent pas une idole. Parce que nos idoles, quelles qu'elles soient, que ce soit l'épargne, nos biens, ou quelle que soit l'idole, eh bien, nous détournent nos pensées de Christ. Et tel est notre enjeu par rapport à la possession, par rapport à l'accumulation. Après ces deux recommandations, Paul fait justement deux recommandations, qui sont comme un miroir face à ces deux mises en garde. Et la première recommandation est de placer notre espérance en Dieu. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous en jouissions. Placer notre espérance en Dieu et non dans nos richesses. Et je complète ce verset par un autre que Jean-Marc a lu en introduction. Recherchez plutôt le royaume de Dieu et cela vous sera donné en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et qu'est-ce que ça veut dire, au fond, mettre son espérance en Dieu? On en a parlé, on l'a prié, on l'a chanté. Mettre son espérance en Dieu. Comment je peux le dire en un minimum de mots et un maximum de clarté? C'est toute une prédication, voilà, c'est un vrai défi pour moi. Et si je devais le dire simplement, eh bien, l'espérance, mettre son espérance en Dieu, c'est de comprendre que Dieu m'aime au point d'avoir laissé mourir Jésus-Christ sur la croix pour me réconcilier avec Dieu le Père. C'est de comprendre aussi que rien ne pourra me séparer de son amour. Et il me semble que c'est là notre espérance. Et je crois que c'est les principaux mots qui résument notre espérance. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, c'est même plus qu'une espérance, c'est une promesse. Et nous l'avons chanté, nous aussi, ce matin. Nous restons à l'abri de son amour. C'est vraiment une promesse. Et de savoir ça, eh bien, ça me rend heureux. Cela m'apporte de la sécurité. Ça apporte un sens à ma vie. Alors, bien entendu, ça n'exclut pas les difficultés de la vie, les périodes difficiles. Mais au-delà des deuils que je vais immanquablement connaître, de la maladie, des difficultés dans mon travail. Bref, tout ce que nous avons tous connu et que nous connaîtrons tous, au-dessus de ça, au-dessus de tout ça, il y a l'espérance en Dieu, qui est que rien ne pourra me séparer de son amour, même pas la mort, rien. Et encore une fois, c'est une promesse. Être relié à Dieu par un lien indestructible, et c'est ça, entrer dans le royaume de Dieu. Christ, par sa mort, nous a permis d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors le texte parle aussi des richesses de Dieu. Et c'est un autre défi pour moi. Comment, là aussi, en quelques mots, en peu de mots, eh bien, minimum de mots, avoir un maximum de clarté sur les richesses de Dieu. Ce serait un autre sujet de prédication. Et je citerai deux richesses, la paix et la joie. La paix d'être réconcilié avec Dieu, de savoir que la mort n'est pas la fin de toute chose. La joie de connaître Dieu et de savoir qu'il m'aime et encore une fois que rien ne pourra me séparer de son amour. La joie d'avoir un sens à ma vie. La joie de vivre au milieu de ma famille spirituelle avec qui nous partageons la même foi. Et c'est ça les richesses du royaume. C'est ça la vraie vie dont parle le texte au verset 19. D'autres traductions remplacent la vraie vie par la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Vivre constamment dans la présence de Dieu et connaître la paix et la joie. Et le texte nous invite à jouir de ces richesses. Mais pour ça, il faut déjà avoir conscience qu'elles sont à ma portée. Et le verset de l'évangile de Luc, aussi Jean-Marc a pris en introduction, nous encourage à en faire notre priorité, de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous demande tout simplement de changer notre logiciel interne, en fait, d'avoir soif non des richesses terrestres, mais des richesses de Dieu, de comprendre que ce ne sont pas nos biens, notre richesse personnelle, qui nous apportent la paix, la joie, le salut ou la vraie vie, la vie éternelle. Et je trouve intéressant que Christ précise « N'aie pas peur, petit troupeau. N'aie pas peur, petit troupeau. » Parce que là, il y a une des clés. Parce que souvent, c'est le manque de confiance dans le lendemain. C'est le manque de confiance en Dieu. Et donc la peur qui nous pousse à accumuler des richesses et avoir confiance dans nos richesses. Consacrons notre temps, notre énergie à la bonne richesse, celle que Dieu nous propose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, dit Jésus. Placez notre espérance en Dieu, dit Paul. Et ce sont deux manières de dire la même chose. Faire de Dieu notre priorité. Et est-ce que nous sommes prêts justement à faire de Dieu notre priorité? On connaît aussi ce verset à propos de la perle, quand on connaît un peu la Bible, Matthieu 13, versets 45 et 46. Le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Est-ce que l'on est prêt à vendre tout ce que l'on possède pour acquérir la perle de grand prix? Dit autrement, est-ce que l'on est prêt à mettre réellement Dieu en priorité? Est-ce que l'on est prêt à rechercher d'abord les richesses de Dieu avant les richesses terrestres? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et je vous propose quelques pistes de réflexion, quelques questions que l'on peut se poser. Suis-je prêt à dire à Dieu que tout ce que je possède lui appartient? Suis-je prêt à obéir à ses commandements? Suis-je prêt à consacrer du temps de qualité pour cultiver ma relation avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible? Suis-je prêt à le servir en servant l'Église? Suis-je prêt à enrichir les liens entre mes frères et sœurs, à développer la communion fraternelle? Et tous ces points me poussent à faire des choix de priorité. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Et parfois, souvent, choisir la priorité du royaume de Dieu, c'est un combat. Et le combat, c'est vrai, il peut être d'intensité différente. Ça peut être le combat du matin contre ma couette, pour que je me lève et consacrer les premiers instants de la journée à Dieu par la lecture et par la prière. Ça peut être le combat contre mon agenda, pour trouver le temps d'aller au groupe de semaine ou de prendre le temps de le servir. Et parfois, on a des combats qui sont plus intenses, comme par exemple me couper d'une relation parce que, eh bien, elle ne permet pas de placer Dieu en premier. On a chacun nos combats et il n'y a aucune personne dans cette salle qui n'a pas de combat justement pour placer Dieu en premier. Et c'est normal et nous sommes appelés à combattre. Et je ne veux pas donner l'impression que c'est parce que nous mettons Dieu en premier qu'il nous ouvre les portes du royaume. C'est exactement l'inverse. C'est parce que les portes du royaume nous sont ouvertes par la mort de Jésus-Christ, eh bien, que nous devons mettre Dieu en premier. Et lorsque nous trouvons que nos sacrifices, eh bien, sont lourds, que ce soit des sacrifices de temps, des sacrifices de relations, les sacrifices sont trop importants, les combats sont trop durs pour mettre Dieu en premier. Rappelons-nous que pour Christ, nous rendre accessibles toutes ces richesses, eh bien, le sacrifice a encore été plus grand. Son sacrifice a été la mort sur la croix, avec tout ce que ça a impliqué d'humiliation, de rejet, de souffrance. Et c'est le Fils de Dieu dont on parle. Autre question, est-ce que je vois comme une richesse de posséder le royaume de Dieu? Est-ce qu'on n'y réfléchit pas forcément tous les jours, mais est-ce que je vois comme une richesse de posséder le royaume de Dieu? Ça paraît tellement incroyable. Est-ce que nous nous rendons compte de toute l'étendue de ces richesses? Est-ce que nous savons en profiter de ces richesses? Mes amis, je peux vivre sans me rendre compte que j'ai à portée de main toutes les richesses de Dieu. Je peux vivre sans me rendre compte qu'en étant fils de Dieu, je suis un gosse de riche. Je sais, ça vous est rarement arrivé d'être traité de gosse de riche. Mais au fond, c'est un peu ce que l'on est. Nous sommes des gosses de riche. Nous, on n'a pas de richesse spirituelle. Mais le Seigneur met à notre portée, le Père de toutes les richesses met à notre portée, nous ouvre les portes du royaume de Dieu où toutes sont ses richesses. Nous sommes des gosses de riches. Autre recommandation, recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. La générosité, le partage, c'est le seul vrai sens de la richesse. La richesse, c'est au fond simplement une occasion de pouvoir donner, une possibilité de donner plus. Travailler plus pour donner plus. Le don, le partage, eh bien, ce sont des sujets sensibles. Et à chaque fois que l'on parle d'argent, c'est le cas. Parce que justement, l'argent constitue un sujet sensible, même si l'argent n'est qu'une partie de nos biens. Et je ne veux être ni moralisateur, ni donneur de leçons, et j'ai moi-même plein de choses à apprendre sur ce sujet-là. Mais c'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Marc de faire passer l'offrande avant la prédication, de manière de ne pas avoir, de réaction à chaud par rapport à la générosité, par rapport à l'offrande, mais que vraiment ça puisse mener chez nous une réflexion de fond. Lorsque je parle de réflexion de fond, je veux dire que le vrai sujet n'est pas la somme que nous donnons ou la nature de ce que nous partageons, même si bien sûr il est important de donner, et l'Église, avec un E, a plein de besoins, et nos dons sont importants. Le vrai sujet, c'est l'état de notre cœur. Parce que le Seigneur n'a pas besoin d'argent. Le Seigneur n'a pas besoin de nos biens, mais le Seigneur a besoin de cœurs généreux. Et nos dons, le partage, sont l'expression de la générosité de notre cœur. Rappelez-vous la veuve qui ne donnait qu'une petite pièce. La pièce était petite, mais son cœur était grand. La pièce était petite, mais son cœur était grand. Et c'est de cœurs généreux dont le Seigneur a besoin. Et je vous propose de lire ce passage, justement, avec la veuve, dans Marc 12, verset 41. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, et elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La pièce était petite, mais son cœur était grand. » Et la générosité est importante parce qu'elle constitue un lien puissant de la communion fraternelle. Sans générosité, la communion fraternelle n'existe tout simplement pas. Et je ne parle pas d'argent, je parle de partage. Parce qu'ouvrir sa maison est un acte de générosité. Et Dieu utilise notre générosité afin de pourvoir aux besoins de son Église. Notre générosité est aussi un témoignage vis-à-vis des personnes qui ne sont pas chrétiens quand ils voient notre rapport à l'argent. La générosité est une illustration de l'amour de Christ. Rappelons-nous que ce que nous possédons ne nous appartient pas. Et c'est une phrase qui est vraiment qui est paradoxale. Ce que nous possédons ne nous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Acceptons-nous que notre maison, notre voiture, notre compte en banque appartiennent à Dieu, et c'est un vrai sujet de réflexion. La conséquence est de mettre nos biens à son service. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Intellectuellement, oui, mais en pratique. Et je reconnais d'avoir vraiment besoin d'enseignement par rapport à ça. Je me rends compte combien, moi, je dois faire des progrès dans ce domaine. C'est très simple. Si vous voulez me mettre dans l'embarras, demandez-moi de vous prêter ma voiture. Vous savez, je fais partie de la confrérie des personnes qui garent leur voiture loin pour éviter les coups de portière. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici, ils me comprendront. Mais voyez, en pratique, ça donne quoi ? Dans notre générosité. Je veux bien te donner mon cœur, Seigneur. Mais ma voiture ? Vous voyez le paradoxe, quelque part ? Alors, bien sûr, l'Église n'est pas non plus l'abolition de la propriété privée. On ne met pas tout en commun. Tout simplement aussi parce que si je ne possède rien, je ne peux rien te donner. Si je ne possède rien, je ne peux rien partager. Je ne peux pas être généreux si je ne possède rien. Et la générosité n'exclut pas la sagesse. Il est bien sûr nécessaire de donner avec sagesse, de donner avec discrétion, de donner sans encourager l'assistana. Et la Bible encourage à chacun à subvenir à ses besoins d'une manière générale. Mais sauf que certains d'entre nous, dans les situations où ils sont, ce n'est pas forcément toujours possible. Mes amis, je pense que notre assemblée doit être particulièrement attentive à ce sujet-là. Parce que vous verrez, si vous venez à l'assemblée générale, que nos comptes vont bien. Nos comptes sont excédentaires. Nous recevons plus d'argent que nous dépensons. Et un des dangers à appartenir à une église où les finances vont bien, ce qui est quand même relativement rare, une œuvre ou une église où les finances vont bien, c'est rare, un danger est de ne plus se rendre compte des besoins de l'église, mais aussi des besoins que l'église soutient. Et c'est vraiment un risque, c'est un danger d'endormissement. Et l'endormissement est le premier pas de l'aveuglement. Donc vraiment, prenons garde à ça, prenons garde à notre générosité. Veillons à la générosité de notre cœur. Et puis enfin, il y a la dernière partie. Ô Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ce que l'on appelle à tort la connaissance. Pour s'y être attaché, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous. Et ces deux versets terminent la lettre de Paul. Et là encore, j'imagine Paul se demander, mais par quoi je termine ? Par quoi je termine ? Ô Timothée. Dans d'autres traductions, c'est écrit « Cher Timothée ». Et rien que ça, je trouve que c'est magnifique. Parce que quand Timothée a lu ça, ça a dû lui faire du bien, parce qu'il a dû à nouveau prendre conscience combien il était important pour Paul. Ô Timothée, cher Timothée. S'il y a un élément dont il faut te souvenir, garde intact ce qui t'a été confié. Sois fidèle à la vérité et ne t'égare pas toi-même dans les bavardages inutiles ou les fausses doctrines. Sois fidèle, sois fidèle. Être fidèle à l'enseignement de la parole, c'est notre défi. Et ça nous concerne tous, quelle que soit notre maturité dans la foi. Le Seigneur a permis que je me convertisse en tant qu'adolescent et assez rapidement, j'ai fait des colos chrétiennes. Et donc, j'ai eu des copains chrétiens et leur engagement m'impressionnait, ils témoignaient dans leur lycée, c'était vraiment des gens qui aimaient Dieu. Avec un peu plus de 30 ans de recul, certaines des personnes à qui j'ai gardé contact se sont éloignées de Dieu. Et personne n'est à l'abri justement de s'éloigner de Dieu. Et ils ont manqué de fidélité. Et parfois nous avons la tristesse de constater que les personnes qui se sont faites baptiser ici, quelques temps après, se sont aussi éloignées de Dieu. Paul a donné beaucoup de conseils à Timothée pour gérer l'église d'Éphèse. Il lui a fait beaucoup de recommandations, plein. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit était Timothée une fois qu'il a lu la lettre. Vous voyez, il dit « Waouh !» Il a dû la lire, il la relire, et il se dit « Il y a du boulot. Par quoi je commence ? Par quoi faut commencer ?» Et Paul lui dit « Garde intact ce qui t'a été confié, sois fidèle. » Et c'est ça la priorité des priorités. Et c'est, je crois, là-dessus que Paul termine. Sois fidèle, sois fidèle. Et s'il y a peut-être un élément à retenir de toutes ces prédications, c'est ça, au fond. Sois fidèle. Parce que si l'on manque de fidélité, si l'on perd, quelque part, notre fidélité à la parole, à Christ, eh bien, le reste, c'est que du vent. Alors, c'est la fin. C'est la fin. Et moi, j'aurais bien aimé connaître la suite. Alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que t'as fait, Timothée ? Alors, on a de la chance, on a un deuxième épître à Timothée, qui a été écrit 2-3 ans après. Et Timothée était toujours responsable de l'Église. Oui, mais après, comment ça s'est passé ? Et on a un petit indice. Petit, mais on a un petit indice. Ouais, j'ai pris un peu de retard. Et dans Apocalypse 2, 5 premiers versets du chapitre, il est question de l'Église d'Éphèse. Ouais, donc c'est intéressant de voir peut-être qu'est-ce qui s'est passé après. Et là, c'est Christ qui parle. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Donc c'est une parole qui s'adresse à l'église d'Éphèse. La même église dont il est question pour Timothée. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Waouh ! Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Paul a mis en garde Timothée, justement, pour les fausses doctrines. Il lui a dit quoi faire. Et Timothée a relayé ce message auprès des responsables. Et là, c'est Christ lui-même qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi de ton premier amour. Et je crois que cette exhortation, eh bien, si, s'adresse à nous. Et à chacun, à nous en tant qu'assemblée, mais à chacun d'entre nous. Souviens-toi de ton premier amour. Sois fidèle. Garde intact ce qui t'a été confié. Et ça, c'est la priorité des priorités. Amen.